Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Oui, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Pourtant, Serge Blanco, arrière physique d'un mètre 85 pour 85 kilos, né à Caracas, est en route pour la postérité. Cette saison s'annonce pour lui comme une des plus extravagantes. Serge Blanco, c'est l'assurance spectacle du 15 de France.
Enfants de France, rêvez un jour d'être des Serge Blanco. Héros populaire, aristocrate qui vient au peuple comme le Jésus, aurait dit Gilles Deleuze. Serge Blanco, c'est la victoire en chantant, celle qui ouvre la barrière de la liberté et guide nos pas. L'Ovalie nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr, et après buvons un coup, buvons en deux. Serge Blanco, une certaine idée du rugby. Serge Blanco, l'incarnation du panache, mon ami. Aujourd'hui, il a 61 ans, un cœur tout neuf, a priori. Et toujours cette petite cicatrice, là, sur la joue gauche. Stigmate d'une enfance qui fut à la fois merveilleuse et pas si simple. Serge Blanco, bonsoir.
Bonsoir.
Et soyez le bienvenu.
Merci beaucoup.
Comment ça va la vie ?
Ah, elle est belle, elle est magnifique. Elle mérite d'être vécue.
Et vous avez l'œil qui le dit, vous avez l'œil qui pétille, Serge Blanco. Bienvenue à vous. À vos côtés ce soir, un journaliste spécialiste de rugby. Il vient de coordonner, entre autres, un très beau livre du magazine SoFoot, enfin SoPress, qui sort tampon, le magazine du rugby. La folle histoire du rugby, sous-titré Oreilles en chou-fleur, boîte à gifles et grosse rigolade. C'est chez Marabout. Il s'appelle Alexandre Pedro. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir. Serge Blanco en couverture, ouais. Mais qui n'a pas d'oreilles en chou-fleur parce qu'il était arrière. Et donc oui. Il protégeait ses belles oreilles.
Absolument. De dos, Serge Blanco, avec le numéro 15, maillot de l'équipe de France. Magnifique. On vous retrouve tout de suite l'un et l'autre. Et puis dans quelques minutes aussi, avant 19h, le Give Me Five de Joy Raffin. Salut Joy.
Salut Colin, bonsoir à tous.
Alors au programme.
Ah, la ville du rugby.
Et oui.
Santa Maradona. Et un cycliste increvable.
Vous allez voir à tout à l'heure. Joy, vous êtes bien sur France Inter, c'est parti. C'est l'heure du tigre.
L'œil du tigre. Philippe Collin sur France Inter.
Alors, on commence ce soir avec la voix de Jean Lacouture, écrivain, biographe, homme d'esprit et de culture, un esthète fervent amateur de rugby. Et à quelques jours de la 9e édition de la Coupe du Monde de rugby qui va ouvrir au Japon vendredi prochain, Marco Mutel a déniché une archive où Lacouture nous offre une anecdote savoureuse. Alors s'il te plaît Jean, raconte-moi le sport, voici Jean Lacouture.
Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche.
Le rugby est un rituel, bien entendu, et il y a la fameuse histoire si belle, qui est mon histoire préférée en matière de rugby, l'histoire de l'Africain d'un pays de savane qui a été envoyé pour des études en Grande-Bretagne, Oxford ou ne sais pas dans quel collège, pendant 3 ou 4 ans, qui revient en Afrique dans sa tribu, dans un pays sec. Et alors quand il revient, le jeune homme de 23, 25 ans, on le met sous l'arbre à palabre, on lui dit raconte, tu reviens d'Europe, tu reviens de chez les Anglais, là-bas, chez les Voyages, décris-nous. Ah, il dit, c'est un peuple très étrange, un peuple très rituel. Ils sont très très étranges, ils ont trouvé une chose merveilleuse, ils ont trouvé un truc, vous voyez. Ils se réunissent le samedi après-midi autour d'un espace vert. Là. Dans cet espace vert, arrivent tout d'un coup 30 types, habillés de façon multicolore, différents, les uns en rouge, les autres en bleu. Et puis un 31e arrive, il est vêtu de noir. Et c'est celui qui est vêtu de noir, a un sifflet dans la bouche. Il siffle, et au moment où il siffle, la pluie se met à tomber.
Casio, playing on my heart just like a Casio. Breaking it apart so you can let it go. Oh, wait another year, that's not original. I'll send a call, alright, let's go now. Back to my vehicle. They just gonna tell you that I wasn't real. And I just wanna tell you this is how I feel. I know you feel, I know you feel it.
my heart just like a Casio. Drinking it up, I see you can let it go. We are dirty, that's now original. Send a call, I'll rally for now.
C'est groovy, c'est jungle, c'est Casio, c'est parfait pour un été sans fin dans ce monde où il ne pleut plus jamais. La pénitence par le soleil. Allez, à la fraîche, voici l'histoire du dimanche soir. Serait-il devenu le prince métis de l'Ovalie si son père n'était pas mort d'une crise cardiaque alors qu'il n'avait que 2 ans? À l'époque, Serge Blanco vivait à Caracas, en Amérique du Sud, là où il est né en 1958, d'une mère basque et d'un père vénézuélien. Après ce drame, Odette Blanco décide de rentrer en France, à Biarritz, avec son fils chéri. Évidemment, il l'ignore encore, mais ce triste coup du sort propulse le gamin vers un tout autre destin. Et, 34 ans plus tard, au moment de remiser ses crampons, il est devenu le suzerain des suzerains au royaume du rugby.
C'était vraiment le dernier match de Serge Blanco. Alors tout le monde y pensait, les téléspectateurs, les spectateurs, les joueurs, Serge bien sûr, vous aussi sur le stade, sur la pelouse, vous étiez sur la pelouse, ça vous a un petit peu pincé le cœur, honnêtement.
C'est vrai, oui, c'est fini, il faudra s'y faire, mais j'avoue que j'ai ressenti quelque chose hier quand Blanco a quitté le Parc des Princes. Vous savez, Gérard, on ne côtoie pas un tel personnage pendant 16 ans sans ressentir une certaine émotion. Vous savez, Blanco, c'est une star, mais une star sympa. Blanco, ce n'est pas rien. Blanco, c'est un club, Biarritz, 2 grands chelems, 16 années de haut niveau, 93 sélections en équipe de France, 100 essais marqués, 100, 279 matchs, 1113 points réussis, dont les 3 hier soir au Parc des Princes. Voilà pour les chiffres.
Que c'était beau, le rugby à la Blanco.
Que c'était beau, le rugby à la Blanco, c'était les mots de Gérard Holtz sur Antenne 2. Serge, oui, c'était beau. C'était beau, mais c'était quoi le rugby à la Blanco? Comment vous pourriez définir la vision du rugby selon Serge Blanco par lui-même?
Le partage, la passion, des moments exceptionnels que l'on vivait, en sachant qu'on fabriquait les souvenirs d'aujourd'hui ou de demain. Et c'était ça qui était l'élément moteur qui nous permettait de continuer à avancer et à avoir envie de se battre. Et surtout d'être fier de porter très très haut les couleurs de rugby français.
Mais est-ce que vous aviez conscience de créer les souvenirs sur le moment, déjà? Vous saviez que vous rentriez un petit peu dans une forme d'écriture légendaire?
Au fur et à mesure qu'on a commencé à évoluer avec cette équipe, parce que c'est vrai que cette équipe a été construite autour de Jacques Fouroux, un leader emblématique, et on s'est aperçu que petit à petit, on vivait des moments intenses, exceptionnels. Et surtout, ce qui faisait notre force, c'est qu'on avait toujours envie de revenir. Et donc là, on a commencé à sentir qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et c'est vrai que la problématique de l'un devenait la problématique de l'autre. La joie de l'un était partagée par tout le groupe. Et c'est vrai qu'on a eu des coups durs. Certaines personnes ont été touchées par certains grands coups.
De la vie.
Mais à chaque fois, oui, de la vie. Et à chaque fois, on a réussi à se resserrer. Ce groupe a permis à la personne en question de pouvoir se relancer.
Alexandre Pedro, je rappelle, vous êtes journaliste et coordinateur d'un très beau livre qui s'appelle Tampon, consacré à la folle histoire du rugby. C'est quoi l'héritage de Blanco dans le monde du rugby aujourd'hui, en 2019?
Je ne sais pas s'il est d'héritier, parce que Serge Blanco, il est peut-être trop modeste pour le dire, c'est quelqu'un d'à part dans le milieu du rugby. C'est un arrière, donc c'est un poste un petit peu satellite déjà, un peu loin du combat, où on bénéficie d'une plus grande liberté.
Mais l'arrière est un ingénieur.
C'est
l'arrière construit
le jeu. C'est une sorte de gardien, de libéraux, si on fait une comparaison avec le foot. Et Serge Blanco, c'est le brio. C'est l'homme qui tombe à pic, qui va surgir, on ne sait pas où, marquer un essai, comme face à l'Australie en 87, qui aura toujours le rebond favorable avec lui, qui aura toujours la bonne inspiration.
Le French flair, quoi. Hein.
Je pense que c'est vraiment le French flair.
Ça veut dire l'intuition.
Et il y a peu de joueurs comme lui. Il y avait un peu David Campese, qui est un joueur australien assez génial aussi. Et il y en a peu des comme lui. Aujourd'hui, les grands joueurs, c'est plus des joueurs qui font valoir leur physique. Ils sont des athlètes complets. Serge Blanco, c'est un athlète complet, mais qui avait ce flair, cette intuition, cette chance.
Le panache aussi, quand même.
Et le panache. Voilà. Et certains diront parfois un petit peu soliste, mais il allait sur au bout, donc il pouvait se permettre parfois d'être un petit peu soliste.
Serge, dans le même temps, vous publiez vos mémoires, Mes rebonds favorables, ça c'est le titre. Pour commencer, Serge, il est beaucoup question de votre enfance dans ces mémoires. On y croise beaucoup votre mère, qui vous a élevé seule, garde-barrière, dans une grande modestie, dévouée à son fils. Quel souvenir vous êtes de votre enfance, Serge Blanco? Parce que il y a beaucoup de passages dans ce livre qui disent qui vous êtes à travers cette enfance.
Je pense que j'ai eu la chance de vivre à une époque où tout était permis. Quand je dis tout était permis, c'est que l'enfant roi, à mon avis, existait. Alors je dis pas qu'il y avait des plateaux d'argent partout à n'importe quel instant, mais il
bien
y
au
avait
au contraire dans votre vie.
Voilà,
une grande modestie,
une dévotion exceptionnelle de la part de mes grands-parents et de ma mère. Et c'est vrai que ma mère a été une référence exceptionnelle qui me manque bien sûr aujourd'hui, mais je pense que tout le monde qui est dans la peine se retrouve dans la même position que moi. Mais c'est vrai que j'ai eu la joie de partager des moments intenses avec les camarades, même l'école, au niveau de tous les instants, quoi. Il n'y avait pas véritablement quelque chose qui pouvait nous anéantir ou nous faire reculer devant la joie de vivre et surtout l'envie de partager des moments exceptionnels.
Pour soutenir votre mère, parce que financièrement c'était quand même difficile, vous étiez dans un milieu très simple, vous avez quitté l'école très vite pour gagner de l'argent, pour subvenir aux besoins de votre mère. À l'époque, il n'était pas encore question de rugby, de végétariat du tout, on allait bosser. Vous avez commencé par des petits boulots. Alors j'ai vu croupier dans un garage aussi. Vous avez même abîmé une voiture. Bon. Et puis vous êtes rentré comme ouvrier chez Dassault, région du sud-ouest de la France, évidemment, comme tourneur fraiseur, 8 années chez Dassault. Ce qu'il faut bien comprendre, Serge, c'est que c'est une autre époque. Vous étiez une vedette du rugby après coup et aussi en même temps tourneur fraiseur chez Dassault. Qu'est-ce que vous avez? C'était quoi les souvenirs à cette époque-là, Serge Blanco? Être ouvrier chez Dassault et en même temps vedette du 15 de France.
C'était découvrir la vie sous une certaine facette. La facette de la solidarité, du partage, puisqu'on est toujours, et je suis vraiment attaché à ça. Et c'est vrai que je me suis retrouvé, j'étais international en 79 et j'étais OS.
Oui,
c'est-à-dire
ouvrier spécialisé.
Voilà, ouvrier spécialisé. Mais pour moi, il n'y avait aucune demi-mesure. J'étais fier et j'étais heureux de faire ce que je faisais, autant sur le terrain que à travers mon travail. Mais là, je trouvais une grande solidarité. Je vais donner juste un exemple. Donc, j'étais embauché chez Dassault pour que je puisse sortir de la condition d'OS et de pouvoir passer PA. Il fallait passer un pseudo
diplôme,
interne, un test en interne. Quand je suis arrivé pour passer ce test, quelqu'un est arrivé à côté de moi, m'a regardé, m'a dit va faire un petit tour et tu reviens dans 2 heures. Je ne comprenais pas ce qui se passait et c'est là où il y a la grande solidarité du monde ouvrier. Et je suis revenu 2 heures après, la pièce que j'aurais dû moi normalement réaliser,
cette
pièce, elle avait été faite,
elle était là,
elle était sur le bureau Et bien sûr, j'ai eu brillamment mon examen de passage et j'ai pu passer P1. Hein,
eh oui, voilà. Évidemment. Alexandre, ça c'est aussi une époque...
C'est le sud-ouest de la France, c'est qu'on est rugbyman, on touche toujours un arrangement. Oui,
ce qu'il faut préciser, c'est qu'en fait, déjà, Blanco commençait à jouer au Biarritz Olympique, oui, etc. Oui, donc, oui. Les gens étaient déjà grands fans de Blanco, et donc on lui a filé un coup de main par solidarité.
Non, mais c'était... Attention, c'était pas par rapport à Serge Blanco, c'était non, par rapport à ce qui se passait dans l'usine.
Bien sûr.
C'est-à-dire que ce sont des moments, je dirais, de exceptionnel de solidarité. Je vais juste vous donner un exemple. Bien sûr, quand je suis rentré, il n'était pas question que je m'engage dans n'importe quel syndicat ou dans un quelconque syndicat. Bien sûr, il y a eu une grève. Il y avait une grève parce que l'usine de Biarritz risquait de fermer. Il y avait 5-6 usines qui étaient en balance. Et là, on a trouvé une solidarité exceptionnelle. Bon, tout le monde s'est mis en grève. Bien sûr que je me suis mis en grève par solidarité. C'était tout à fait normal. Mais ça a été une grève, voilà, je sais pas, ils ont pas l'air de les vivre comme ça à l'heure actuelle. Là, c'était une grève bon enfant, bien sûr, on s'amusait, on mangeait, on rigolait, et jusqu'au jour où, bien sûr, la police est arrivée, nous a fait comprendre gentiment qu'il fallait évacuer. Nous sommes vite partis, et nous avons eu la chance que nos revendications de l'époque aient été entendues, et l'usine de Biarritz est restée ouverte.
Alexandre Pedro, c'est un monde qui est quasiment englouti, c'est un monde qui a disparu. Je vais répéter, hein, mais Serge Blanco, international français, vedette mondiale du rugby, OS, chez Dassault à l'usine. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus possible ce genre d'histoire dans le rugby, mais dans le sport en général.
Il appartient à cette dernière génération, qui est la génération avant le rugby professionnel, où déjà un joueur comme lui, peut-être le meilleur joueur du monde, a fait toute sa carrière dans le même club, le Biarritz Olympique, qui à l'époque... Je ne veux pas l'offenser, qui n'était pas le meilleur club en France. qui n'a pas eu de...
Aujourd'hui, il n'est pas champion de France.
À mes yeux, oui.
À ses yeux. Et ce qui est marrant, c'est qu'on parle avec Serge, c'est qu'il n'y a quasiment eu aucune proposition des autres clubs. Les autres clubs, ils savaient que Serge Blanco
ne quitterait pas Biarritz. Il ne quittera pas Biarritz toute sa vie à Biarritz.
Et c'est la génération suivante qui a vécu cette transition, la génération des joueurs comme Castagnette, Califano, Dour, qui ont vécu cette transition, qui ont commencé amateurs, plus réactifs, ils avaient un travail, ils allaient au rugby, et eux, c'est assez marrant qu'on en discute avec eux, parce qu'ils sont vraiment, ils ont un pied dans la génération de Serge Blanco, ils ont un pied dans la génération actuelle, et la génération actuelle, elle est vraiment de plein pied dans le rugby professionnel. C'est un monde passé pour eux, qu'on leur parle de ça.
Ce qu'il y avait de formidable par rapport à ce que j'ai vécu à mon époque, c'est-à-dire qu'on restait dans une famille. À l'époque, on ne jouait pas pour l'argent, on jouait pour des situations. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un seul joueur de rugby qui était au chômage. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui, parce que les gens ont peur, des techniciens de surface, donc c'était du temps où je travaillais, c'était les balayeurs, tout simplement. Si le gars voulait être balayeur à la ville, il rentrait balayeur à la ville. S'il avait la possibilité d'être ingénieur, on l'aidait à rentrer comme ingénieur. S'il était docteur, on l'aidait à s'installer. C'était ça la grande force du rugby, c'était cette grande famille qui permettait à tout le monde de pouvoir trouver véritablement sa voie.
Et du coup, on y passe une vie entière, au Biarritz Olympique. On a été toute sa vie, Serge, attaché à ce club jusqu'à aujourd'hui quasiment.
Bien sûr.
Voilà. Bien ça, c'est pour vous, c'est très important. On va revenir à votre première sélection en tant qu'international. Serge Blanco, c'est très important. C'est le 8 novembre 1980. Vous êtes en Afrique du Sud, à Pretoria, contre les Springboks, donc cette équipe d'Afrique du Sud. Première question, Serge Blanco, vous êtes allé voir à l'époque Albert Ferras, qui était le président de la Fédération Française de Rugby. Mm-hmm. Vous n'aviez jamais été sélectionné. Et vous lui avez demandé, Albert, pourquoi je suis sélectionné, moi? Et qu'est-ce qu'il vous a répondu?
La grande particularité d'Albert Ferras, c'est qu'il était honnête et droit. Alors après, il pouvait ne pas plaire. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont s'en plaindre. Il m'a dit très exactement ceci. Il me dit « t'es très très fort au rugby, donc il n'y a aucune raison qu'on se passe de toi. Mais après, sache aussi que politiquement, tu vas faire valoir. Donc si on veut combattre l'apartheid, eh bien, c'est la seule façon que moi je peux trouver et amener une équipe à défendre les sévices qui peuvent... endurer, qui peuvent... Voilà, donc c'est...
Donc un joueur, entre guillemets, métis, noir de peau, oui. en Afrique du Sud, est sélectionné par l'équipe de France
à l'époque,
sorte de caution politique.
À l'époque.
Voilà. Mais c'est très important.
C'est-à-dire qu'avant moi, il y avait un joueur exceptionnel qui s'appelait, qui s'appelle toujours, Roger Bourgarel. Bourgarel avait fait en 71 la première tournée de l'équipe de France. Enfin, il y avait déjà eu des tournées, mais il avait été le premier noir français à aller en Afrique du Sud. Et là-bas, il avait soulevé les populations. C'est-à-dire que les Noirs étaient derrière les poteaux Et lui, à chaque fois qu'il marquait des essais, c'était la folie, c'était la joie, c'était. Et c'est pour ça que un gars comme un homme comme le président Ferras a fait en sorte que je fasse cette tournée.
Donc 15 jours en Afrique du Sud en 80. Mm-hmm. Donc un match contre les Springboks, ouais. Mais c'est quand même 15 jours dans ce pays-là de l'apartheid. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous le joueur métis, vous le gamin de Caracas, qui se retrouve dans un pays où il y a une ségrégation raciale et où les Blancs ont le pouvoir contre les Noirs, évidemment.
J'ai été meurtri, je suis reparti, j'étais meurtri avec, en me posant beaucoup de questions, parce que, vous savez, tant que j'ouvrais pas la bouche, j'étais considéré comme étant un métis, voire un Noir. Dès que j'ouvrais la bouche, qu'ils m'entendaient parler français, donc il n'y avait aucun problème. Et c'est vrai que...
Là, vous parlez des gens en Afrique du Sud.
Oui, des gens en Afrique du Sud.
Que vous croisiez.
Voilà. Mmh. Et quand on a commencé à faire cette tournée, je me suis aperçu, bien sûr. Vous savez, quand vous avez une bonne vue, il y avait des toilettes. Les toilettes étaient faites pour les Blancs, pour les Noirs, pour les Métis et pour les Indiens. Donc, ça, c'est dérangeant. Après, on s'apercevait aussi que les Noirs rentraient le matin pour aller travailler et repartaient le soir dormir dans la township pour aller dormir. Donc c'est toutes ces situations, c'est le partage, c'est les discussions que j'ai pu avoir, c'est les visites, la visite à Soweto qui m'ont un petit peu ébranlé, quoi, pour pas dire plus. Et c'est vrai que j'ai retenté une année après de voir avec une sélection du tournoi des Cinq Nations, de savoir s'il y avait des améliorations ou pas. Et quand je suis revenu après, j'ai décidé que j'arrêterais
de ne plus y aller. Comme une sorte de boycott de votre part de l'Afrique du Sud.
Voilà.
Voilà, jusqu'à ce finalement qu'il y ait Mandela qui arrive.
Mais entre-temps, bien sûr, au niveau international, il y avait eu un blackout total de toutes les nations pour ne plus avoir de relations avec
l'Afrique du Sud, y compris au niveau de
et sauf les Blacks qui avaient envoyé une sorte d'équipe un peu déguisée en Afrique du Sud dans les années 80, ouais.
Là, donc, en 84.
Ils n'appelaient pas les Blacks, ça avait un autre nom et qui avait provoqué d'ailleurs
les Cavaliers.
Cavaliers, donc ils avaient envoyé une équipe, mais voilà. Ça veut dire quoi une équipe déguisée?
C'est-à-dire
une équipe...
Ils s'appelaient pas les Blacks, mais c'était des joueurs des Blacks. Ils s'appelaient les Cavaliers, mais c'était les joueurs All Blacks qui étaient à l'intérieur. Voilà. Et en 88, il y a eu un boycott de certains pays africains aux Jeux de Séoul parce qu'il y avait la Nouvelle-Zélande. Et donc ils exigeaient que la Nouvelle-Zélande ne participe pas aux JO. Voilà.
Ah oui, parce qu'ils avaient envoyé cette équipe-là.
Voilà, entre les Néo-Zélandais jusqu'au bout ont essayé de garder des relations avec l'Afrique du Sud de l'apartheid.
Serge, on a parlé de Biarritz et de votre attachement à Biarritz. Et alors, pendant cette tournée en Afrique du Sud...
Nouvelle-Zélande, un an avant.
Alors oui, vous détestez quitter Biarritz. Hein, ça, c'est un truc qu'on a compris, c'est pas possible. C'est le refuge, c'est le nid. C'est le nid, hein, Serge Biarritz. Votre mère a mis au point un stratagème postal pour son fils chéri. Qu'est-ce qu'elle a fait, votre mère, pendant cette tournée?
Elle s'était renseignée avant que nous partions, donc un bon mois avant, et elle avait réussi à récupérer toutes les adresses des hôtels où on séjournait. Donc, c'est-à-dire qu'elle s'est mise, dès le premier jour, à m'écrire des cartes postales avec une vue, bien sûr, de Biarritz, où c'était la plage, ou le phare, ou la chambre d'amour, ou un certain nombre de décors. Et c'est vrai que tous les jours, je recevais une carte postale de ma mère.
En arrivant à l'hôtel.
Voilà, en arrivant à l'hôtel. Mais même tous les jours, quand j'étais à l'hôtel, elle savait quand on changeait de ville.
Avec une vue de Biarritz.
Voilà. Moi, j'ai commencé à répondre, mais je me suis vite lassé.
j'ai le souvenir, Serge, que dans cette tournée-là, c'est votre livre qui le raconte, Jean-Pierre Rive, il a pris des coups, il a pris des gros coups pendant ses matchs contre les Springboks. Et je me suis dit, mais est-ce que Blanco a déjà eu peur sur un terrain de rugby? Parce que c'est un sport qu'on dit violent, que je n'ai jamais pratiqué moi-même, mais c'est vrai qu'on entend souvent que c'est un sport qui peut être dangereux. Est-ce qu'il a eu la trouille, Blanco, sur un terrain de rugby dans la vie?
Je pense que c'est la seule fois où j'ai été impressionné. C'est en Afrique du Sud, en 1980, parce que je crois qu'on a rencontré peut-être l'équipe la plus forte qui pu exister, à mon sens. Mm-hmm. En tout cas, j'ai rencontré les Blacks, j'ai rencontré toutes les autres nations. Il n'y a jamais eu cette appréhension. Là, c'était véritablement des gens qui étaient féroces, qui étaient agressifs, qui venaient pour faire mal. Alors que des années après, ce sont des gens qui voulaient jouer au rugby, qui mettaient de la virilité, même le quart de finale contre l'Angleterre, c'était de la rigolade, entre guillemets, par rapport à
ces matchs-là. Ah oui, d'accord. 18h34 sur Inter, on va continuer à parler de rugby. C'est le retour de l'orchestre pour l'instant sur Inter, emmené par l'autre Serge, le Gainsbourg. Le titre joué ce soir, pas long feu. Cette fois, je crois que nous sommes complètement saillés, d'accord ? Ainsi soit-il.
cette fois, je crois que nous sommes complètement ça y est. Mais c'est une question que c'est absolument ça de faire. Parce que se ronger les sens, ça serait tout à fait y'a pas de quoi. Alors moi, je sens que je ferai pas long feu, pas long feu, pas long feu ici. Pas long feu. Pas long feu, pas long feu dans cette chaîne de vie. Pas long feu. Pas long feu, pas long feu, pas long feu ici. Pas long feu. Pas long feu, pas long feu dans cette chaîne de vie. Pas long feu. Quand la vie semble inévitablement se foutue, on se dit qu'il vaudrait mieux être tout à fait, c'est pas ça. Et malgré tout, on reste totalement, on fait comme on a dit. Alors moi je ferai. Pas long feu, pas long feu, pas long feu ici. Pas long feu. Pas long feu, pas long feu dans cette chaîne de vie. Pas long feu. Pas long feu, pas long feu, pas long feu ici. Pas long feu. Pas long feu, pas long feu dans cette chaîne de vie. Pas long feu. Se flinguer, il n'y aurait plus question de remettre nous sa patron. Et dans ma tête, je suis véritablement j'en peux plus. Et je me sens vaguement où va-t-on nous. Je ferai. Pas long feu, pas long feu, pas long feu ici. Cette chaîne de vie, pas long feu. Pas long feu, pas long feu, pas long feu ici. Pas long feu. Pas long feu, pas long feu dans cette chaîne de vie.
Sens du terme, qui a cette qualité première, c'est qu'il aime les autres. Il sait ce que le mot collectif veut dire. En étant une star dans notre jeu, un peu comme Jean-Pierre Rive, c'est, je crois, une des rares stars de rugby.
Philippe Collin.
Et je vous dis, la seule qualité première, de se fondre dans une collectivité, d'être celui qui, a, quand même, à un moment donné, fait gagner les autres, mais qui est toujours à la petite étape amicale pour remercier ses copains, parce qu'il sait aussi que sans les autres, au rugby, on n'est rien.
Sur France Inter.
Sans les autres au rugby, on n'est rien. C'était la vision du jeu de Jacques Fouroux, sélectionneur du 15 de France pendant les années Serge Blanco. Et c'est ensemble qu'ils ont atteint avec les Bleus une finale de Coupe du Monde en 1987. Le rugby, comme une expérience du collectif, c'est également ce que pense l'un des grands sociologues français du XXe siècle, un homme du Béarn, Pierre Bourdieu, pour qui le rugby duplique la sacro-sainte division du travail.
Une des raisons pour lesquelles le rugby fascine l'inconscient des spectateurs, c'est que une équipe de rugby reproduit sous une forme symbolique la structure de la division du travail. Donc, c'est-à-dire que il y a, les métaphores même du langage sportif le disent bien, enfin, il y a ceux qui vont au charbon, les gens qui font le travail obscur, qui doivent avoir de la force et pas trop réfléchir. Ensuite, il y a les cadres moyens, enfin bon, les demi, il y a l'arrière qui pense le jeu d'ensemble, les trois quarts qui tire les profits symboliques sans beaucoup se salir, etc. Bon. Et bon, même les stéréotypes, les échanges de surnoms, les luttes rituelles entre les différents joueurs, les différentes places, etc. Bon, reproduisent grosso modo l'espace social.
Le rugby reproduit l'espace social. Pierre Bourdieu a aussi beaucoup réfléchi au déterminisme, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on peut quitter ou pas sa classe sociale. Serge Blanco, vous êtes vous l'incarnation de l'ouvrier qui est devenu patron, hein, tourneur fraiseur chez Dassault, on en parlait tout à l'heure, devenu aujourd'hui patron de très belles affaires florissantes. Est-ce que c'est le rugby qui vous a permis cette transition sociale, Serge, ce chemin de l'ouvrier vers le patron? Est-ce que c'est le rugby qui vous a apporté ça dans la vie, ce que raconte Bourdieu?
Oui. Oui, parce que ça m'a permis de rencontrer, de croiser des gens merveilleux. Et puis, à chaque fois, je pense qu'il y a un intérêt commun. Donc, c'est cette solidarité qui vous fait prendre conscience qu'on peut partager quelque chose. Et partager quelque chose, pour certains grands patrons, c'est très important. On sait machinalement que le CAC 40, les patrons du CAC 40 sont très intéressés par les rugbyman, mais non pas intéressés parce que ils vont tirer un profit quelconque, intéressés parce que ils incarnent une évolution et une droiture qui leur permet surtout de pouvoir continuer toujours à avancer, mais d'avancer dans l'axe. Et un patron sait pertinemment qu'il pourra avoir tous les mots les plus gentils du monde, si ses employés, si ses ouvriers n'ont pas envie de suivre et s'ils ne croient pas en lui, ils ne pourront pas y arriver. Donc je pense que c'est cette solidarité qui permet d'avoir un certain nombre de rencontres sur lequel tout le monde peut s'appuyer. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens exceptionnels. Et pour monter ma thalasso, j'ai eu la chance de croiser un homme qui était de la Massif, Michel Labourdette, et qui lui m'a dit, nous avons pratiquement fait le même chemin. J'ai travaillé chez Dassault, j'étais un petit ouvrier, je suis parti de chez Dassault, j'ai fait quelque chose de différent, j'ai créé la Massif au niveau régional. Et aujourd'hui, la Massif verrait bien Serge Blanco mettre en place son projet de thalassothérapie. On est là pour t'aider. Mm-hmm. Et voilà comment ça s'est passé.
Qu'est-ce que vous devez aujourd'hui au rugby dans votre rôle de manager, dans votre rôle de patron? Qu'est-ce qu'il y a du rugby là-dedans?
Je dois beaucoup parce que je me suis beaucoup appuyé sur ce qui se passe sur un terrain pour pouvoir faire marcher mes entreprises.
Ça veut dire quoi, ça ?
Parce que, avant tout, c'est le respect que l'on peut amener aux gens. Et je disais tout à l'heure, c'était un peu coquin dans ma bouche, mais un technicien de service est aussi important qu'un sous-directeur. Parce que le technicien de service, s'il ramasse pas le bout de papier ou le mégot qui est par terre, on juge le patron et le directeur. Donc c'est pour ça que quand on arrive à passer tous ces messages-là et qu'on arrive à avoir cette complicité, on peut avancer, on peut aller sur tous les chemins sans encombre et surtout avec une réussite collective.
Alexandre Pedro, je rappelle que vous êtes journaliste, spécialiste de rugby. Est-ce que ça marche encore dans le rugby d'aujourd'hui, ce qu'on vient d'entendre dans la bouche de Pierre Bourdieu? C'est-à-dire cet esprit collectif dans la division du travail où chacun est à son poste, est-ce que ça marche encore ou la matrice est cassée?
Il y a deux choses. Le rugby est le sport le plus collectif par définition. Ils sont 15, donc où l'individu sera le moins important. Au basket, Michael Jordan dans une équipe à 5 fera, on va dire, les deux tiers du travail. Au rugby, Serge Blanco dans une équipe moyenne sera une sorte d'artiste un petit peu bridé ou esselé. Et aujourd'hui, je pense que les joueurs se ressemblent plus qu'un trois quarts centre. Aura quasiment un physique de deuxième ligne, de troisième ligne.
C'est ce que je voulais vous dire.
Il fera 100, les trois garçons qui font 100 kilos, même des ailiers qui sont 95, 90 kilos. Donc, ils seront aussi dans le défi physique, dans l'impact. Et il y a surtout des exceptions, des joueurs un petit peu, qu'on peut de folie, un petit peu d'électricité, mais comme par exemple Chelsea Colby, qui est un joueur sud-africain d'1m68, qui est extraordinaire, mais ils sont vus de plus en plus comme des ovnis, et j'ai le sentiment, après je connais moins bien le rugby que Serge, qu'il y a une sorte d'uniformité, et que ce que disait Bourdieu est peut-être moins vrai, même si il y a toujours cette histoire de conquête qui part de devant, qui est primordiale pour faire jouer les trois quarts. Ça restera toujours. Mais il y a une uniformisation qui est en œuvre.
Serge Blanco, vous voulez réagir?
Bien sûr qu'on est rentré dans l'ère professionnelle. C'est complètement différent. Mais l'affect reste l'affect. C'est-à-dire qu'on a besoin de son coéquipier. Si son coéquipier ne fait pas le boulot, même si les règles ont changé, même si on veut décrire tous les péchés du monde à travers le professionnalisme, s'il n'y a pas l'affect, une équipe ne peut pas réussir. La preuve, le Stade Toulousain, qui est une équipe pratiquement moribonde il y a 2 années, cette équipe est devenue championne de France l'année dernière et a enchanté l'Europe entière de par le fait d'avoir cet état d'esprit, d'avoir cette dévotion. On retrouve tout cela.
Alors justement, Serge, vous dites souvent que malgré la professionnalisation du rugby, qui date de 95 à peu près, on va dire, vous dites que le rugby n'est pas un métier. C'est pas un métier, le rugby. Alors qu'est-ce que c'est, le rugby, Serge Blanco?
Moi, si j'aurais aimé, moi, me faire payer pour pratiquer ma passion.
Oui,
voilà.
Sûr, oui.
C'est une passion. Alors, bien sûr, peut-être que je suis en déphasage, et très certainement avec ce que peuvent penser certaines personnes. Mais vous savez, aujourd'hui, je pense que il y a un rugby que l'on catalogue de professionnel. Sauf que tout le monde oublie de dire que le rugby commence chez les amateurs, commence dans les petits villages, dans les petites bourgades, dans les petites villes. Et c'est ce travail qui est mis en place qui doit permettre à notre rugby dit professionnel de continuer à exister et de continuer à œuvrer dans le bon sens pour avoir des résultats avec l'équipe de France.
Mais Serge, il y a un truc qui marche pas. On a le sentiment... De loin, je connais pas assez le rugby professionnel dans ma vie, mais on a le sentiment qu'il est coincé entre deux fauteuils. C'est-à-dire qu'à la fois, on a professionnalisé, bon, très bien, mais on a perdu peut-être un esprit, je sais pas. On parle de résultats de l'équipe de France, ça fait 10 ans.
C'est très français.
Ça patauge. Oui, mais
la crise est très française.
On parle des petits villages, sans doute que c'est vrai. Mais il y a une rupture quelque part, sans doute, dans la chaîne, non? Parce que... L'équipe de France, elle patauge, il n'y a plus de parti pris.
Non, mais elle patauge, bien sûr qu'elle patauge, parce que d'abord, il faut avoir de bonnes générations, et ça fait un moment qu'on n'a pas forcément les grandes générations qui ont pu œuvrer de par le passé du rugby français. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a de désolant, enfin en tout cas, c'est ce que je pense, c'est que les gens ont voulu s'accaparer du rugby. La politique a voulu s'accaparer du rugby. C'est-à-dire qu'on a voté des lois qu'on essaie de mettre en place pour le rugby ou pour le sport, que ce soit pour le football, pour le rugby, pour le hand, c'est-à-dire que le libre-échange, la liberté de pouvoir se transporter dans n'importe quel pays, ça peut pas marcher. Si vous êtes un Belge, vous êtes pas un Français. Si vous êtes un Français, vous êtes pas un Espagnol. C'est-à-dire que les lois européennes, bien sûr que pour la vie de tous les jours, moi je peux très bien les comprendre. Sauf que je ne peux pas comprendre aujourd'hui que l'on puisse signer des accords, les accords de Cotonou entre autres, qui permettent à l'Afrique de débarquer en masse en Europe en considérant que...
Là on parle de rugby.
Oui on parle de rugby.
Oui, bien sûr,
on parle pas de...
Oui,
mais
bien sûr.
C'est la politique qui a fait que
bien sûr.
Rugby et les autres sports subissent ça. Donc on se retrouve dans une situation où on vous dit « Ah ouais, mais vous savez, vous avez trop d'étrangers. » Et vous dites « Mais... comment vous voulez qu'on fasse pour les arrêter ? On n'a pas le droit. On n'a pas les mains libres pour pouvoir dire à ces personnes-là, non. »
Mais c'est là où vous dites qu'il y a un problème, c'est que du coup, ça pouvait être une richesse, évidemment. Et puis tout d'un coup, c'est devenu un handicap.
Parce que c'est allé trop loin.
Oui, ça allait trop loin.
Par exemple, dans l'équipe de Serge Blanco à Biarritz, il devait y avoir 14 Basques et un Béarnais.
À l'époque, vous dites.
Aux
années 80, quoi.
C'était vraiment le sport le plus régional. À Toulouse, il y avait 14 Garonnais, un Ariégeois. Une équipe comme Montpellier, il y a 4-5 ans, il y avait 13 Sud-Africains. Sur la feuille de match, sur 15, et les discours se faisaient même pas en anglais, se faisaient en afrikaner. Donc on est vraiment, même au foot, on n'est pas allé aussi loin dans la mondialisation, et donc ça pose un problème d'identité au rugby français, qui avait sa façon de jouer, sa façon de concevoir, qui s'est ouvert, et qui sait pas trop où il est, donc il prend des lois un peu plus protectionnistes pour essayer de revenir à quelque chose de...
Et donc c'est pas une question de génération, Serge, ça doit impacter aussi l'équipe de France, j'imagine.
Bien sûr.
Parce que
j'imagine. Mais on a ce problème-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une impasse, parce que, il faut arriver à satisfaire le monde amateur qui, lui, se trouve oppressé, parce que la facilité, c'est d'aller chercher des joueurs étrangers, parce que d'abord, ils sont plus aguerris, entre guillemets, ils sont moins chers. Donc, on est en train de se tromper, quoi. C'est pour ça que, bon, il faut qu'on fasse certaines choses, et c'est pour ça que moi, je vais suivre une personne, Florian Grid, pour que l'on puisse changer un petit peu la fédération française de rugby.
On ne fait pas contre, mais on fait pour
mettre nos arguments en place. Mais je dis pas que c'est pas la faute que du sport et du rugby. Je pense qu'à un moment donné, il faut laisser la liberté au sport de pouvoir se gérer.
Une Coupe du Monde de rugby commence vendredi prochain au Japon, un grand moment de sport mondial, 9e édition. Alexandre, trois raisons pour qu'on ne loupe pas cette Coupe du Monde de rugby qui arrive. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette Coupe du Monde qui commence ?
Le rugby, c'est bien, c'est assez long,
ça dure deux mois. On a le temps de s'y mettre.
Il n'y a pas des matchs tout le temps. Voilà, ça c'est une première raison, c'est le temps long.
On est tranquille, on
est bien. Après, c'est une façon de voir d'autres équipes jouer, d'autres rugby. Moi, je suis intéressé de voir les Samoans, les Géorgiens. C'est parce que nous, on voit toujours le rugby européen.
Bien sûr.
Le rugby du Sud, d'Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie, il faut vraiment être un spécialiste. On les voit pas tout le temps jouer. Et donc, voilà, il y a d'autres cultures. Et c'est vrai que le rugby, c'est un sport qui se renouvelle très peu. Il y a, par rapport à la Coupe du Monde 2015, il y a 19 équipes qui sont qualifiées sur 20, c'est les mêmes. Il y a juste, je crois que la Russie a dû remplacer la Roumanie, sinon c'est un peu uniforme. Et après, parce qu'il y a toujours l'équipe de France, donc Ah. On est pessimiste, et puis, pour citer une fois Serge Blanco qui avait dit avant un match contre la Nouvelle-Zélande, pourquoi on peut le faire? Parce qu'on est français. Mm-hmm. Bon, on avait pris 60 points, mais il y a quand même ce toujours.
C'est un accident.
Voilà. Parce qu'on est français, sur un malentendu, on est un peu les gens Claude Duss du rugby, on se dit toujours quoi.
Sur un malentendu.
On peut le faire. Ouais. Et parfois, c'est vrai que sur un malentendu, on a fait des très belles choses.
Ben oui.
Donc, on sera là, samedi matin, à regarder l'équipe de France, en disant, sur un malentendu, peut-être que cette équipe va se révéler.
Serge, elle vous intéresse, cette Coupe du Monde?
Bien sûr.
Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que Serge Blanco a envie de voir?
Ben, du beau jeu.
Oui.
Puis des surprises.
Mm-hmm.
Donc, vous commencez par la France. Et puis après, les petites nations. Vous savez, il y a eu un match exceptionnel à la dernière Coupe du Monde. Les Japonais qui ont gagné les Sud-Africains. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça peut représenter dans le monde du rugby.
Bien sûr, évidemment.
Et on s'aperçoit que, avec le professionnalisme mis en place, bien sûr, comme tous les joueurs voyagent, on s'aperçoit que le fait de voyager amène plus à toutes les autres nations, bien sûr, qu'à la France. Donc on a tous ces joueurs qui sont devenus professionnels. On a des équipes comme les Tonga, les Samoa, les Fidjiens. Mm-hmm. Les Fidjiens qui ont gagné malheureusement la France il n'y a pas longtemps. Mais on leur sert la soupe, quoi. On leur permet de se mettre au niveau. Et donc c'est ces équipes-là, on va vouloir, enfin moi en tout cas, j'aimerais bien les voir évoluer et savoir exactement à quel niveau ils sont.
Eh bien, on regardera ça à partir de la semaine prochaine, cette Coupe du Monde de rugby au Japon qui commence vendredi soir avec un Japon-Russie, me semble-t-il.
Mm-hmm.
Serge, une dernière question pour finir et revenir à vos mémoires. À la toute fin, vous dites que vous avez grandi avec un père inconnu, mort trop tôt, vous n'aviez que 2 ans après une crise cardiaque. Et vous dites, mais mes enfants ont grandi avec un père très connu. Hein, père inconnu, père très connu. Qu'est-ce qui est le moins difficile, Serge Blanco?
Et j'ai dit que nous avions, les uns et les autres, un caillou dans la chaussure.
Absolument. Mais qu'est-ce qui est le moins difficile?
Je pense que le moins difficile, c'est ce que j'ai vécu. Oui, je pense très sincèrement. Parce que mes enfants, avec le père que je suis, sont toujours comparés, quoi. On les compare au père. Mon aîné, mes deux enfants ont joué au rugby. Il y avait le nom de Blanco qui s'affichait, tout le monde pensait qu'ils allaient prendre le ballon, traverser le terrain et faire en sorte de faire basculer le match. Mais ça, c'est dur à porter, quoi. Quand on a un père qui est connu, qui représente plus ou moins quelque chose dans un certain milieu, c'est très difficile.
En tout cas, merci à vous deux d'être venus ce soir. Vous pourrez croiser donc ces points de vue de Serge Blanco dans Mes rebonds favorables aux éditions Marabout. Ce sont les mémoires de Serge Blanco et puis également deux publications. Tampon, le beau livre, La belle histoire du rugby, c'est chez Marabout. C'est l'équipe de SoFoot emmenée par Alexandre Pedro, qui fait du rugby pour le coup. Et Tampon, également un numéro spécial à l'occasion de cette Coupe du Monde qui est disponible en kiosque pour 6,50€ seulement. Merci à vous deux. Ne quittez pas l'écoute car voici maintenant le Give Me Five de Joy Raffin.
L'œil du tigre.
Rebonsoir Joy.
Rebonsoir Colin, rebonsoir à tous.
Alors que trouve-t-on ce soir dans ce Give Me Five?
Eh bien on commence avec un immense big up Colin.
Oui.
Ouais, à un sportif retraité qui est habitué aux déclarations courageuses, Gareth Thomas.
Et oui.
Hier, l'ex-rugbyman Gareth Thomas a révélé être séropositif. Voilà. L'ancien capitaine gallois est le premier sportif britannique à dévoiler sa séropositivité après avoir révélé déjà son homosexualité en 2009. Alors âgé aujourd'hui de 45 ans, après avoir joué plus de 100 fois avec les Lions britanniques, quand même, ce qui n'est pas rien, Gareth Thomas a publié cette information dans une vidéo sur Twitter. Il y dévoile son intimité et sa vie de malade du sida à quelques jours de la sortie outre-Atlantique, moi je sais pas quand ça sortira en France, mais d'un documentaire qui va lui être consacré. Donc un seul mot, courage et surtout bravo, bravo, il n'y a pas d'autre mot.
En effet, Gareth Thomas mérite salut et courage. Rugby toujours, voyons avec un peu d'avance, on file au Japon.
Oui, alors on en a parlé avec monsieur Serge Blanco durant l'émission. Si vous n'avez pas écouté, je ne sais pas ce que vous avez fait. Il vous est désormais impossible de l'ignorer. Vendredi commencera au Japon la 9e édition de la Coupe du Monde de rugby. 20 équipes, 11 villes hôtes et une ville qui a particulièrement retenu mon attention, celle de Kamaishi. Alors pourquoi? Bah dites-moi.
Pourquoi? Bah pourquoi, je sais pas.
Pourquoi? Allez-y, aidez-moi un petit peu.
Pourquoi, Joy,
un truc vivant,
pourquoi,
quoi.
Joy, pourquoi Joy?
Eh bien parce que lors du séisme du 11 mars 2011, une vague de plus d'une dizaine de mètres avait complètement ravagé cette ville de la côte est japonaise. Alors des milliers de morts, hein, plus aucune école ou bâtiment administratif, un vrai no man's land, enfin un désastre absolu, l'horreur. Et là, 8 ans après, 8 ans seulement, on a envie de dire, Kamaishi se voit surnommé dans tout le pays la ville du rugby. Parce que Kamaishi va accueillir deux matchs de la Coupe du Monde dans un stade flambant neuf. 16 000 spectateurs pourront venir les 25 septembre et 13 octobre venir voir Fidji-Uruguay et Canada-Namibie. Deux matchs de rugby comme une résurrection attendue par tout le Japon.
En effet, du Japon, on file en Argentine. Tu as des nouvelles de Diego, paraît-il.
C'est ça, Colin, et je sais qu'avoir des nouvelles de Maradona te fait toujours plaisir, d'autant que là, les nouvelles sont bonnes.
Excellente. Voilà.
Alors, après l'avoir vu sur les écrans dans le très bon documentaire d'Asif Kapadia, on vient de le voir, hein, le Diego, en vrai, dans un stade, dans son pays, en Argentine, puisqu'El Pibe de Oro vient de faire sa rentrée des classes en devenant entraîneur de l'équipe de Gimnasia y Esgrima La Plata, qui est le plus vieux club de football argentin, soit dit au passage, puisqu'il a 132 ans.
Une institution en
c'est
Argentine.
C'est quand même hallucinant. Mmh. Voilà. Alors depuis 2002 et son éviction de la sélection argentine en tant que sélectionneur, Diego avait pas mal bourlingué, hein, oui. De Dubaï au Mexique, là il est de retour. Bon, alors certes dans une voiturette de golf, parce qu'il vient de se faire opérer du genou, mais peu importe. Diego Maradona a fait dimanche dernier son entrée dans un stade dans son pays. On raconte même que certains photographes n'ont pas pu faire leur boulot tant ils pleuraient d'émotion de voir Diego là si près d'eux sur leur pelouse. Parce qu'en Argentine, Maradona, c'est le plus terrestre des dieux. Il a tout traversé et avec lui, tous les espoirs sont permis.
Eh oui.
Donc là, son retour au pays tient davantage du spirituel que du sportif, hein, on va pas se mentir. Mais s'il arrive en plus à maintenir le club de Gimnasia dans l'élite du foot argentin, parce qu'il est dernier actuellement, il deviendra carrément un saint.
Et c'est vrai qu'on a vu des images de Diego entrer sur le stade, c'était une folie furieuse et les photographes étaient complètement en panique. C'était...
Il pleurait.
Santa Maradona, priez pour nous. On passe à la résurrection de Jalabert maintenant, c'est bien ça?
C'est ça. Oui. Jaja est increvable.
Et oui,
Jaja, hein, Laurent Jalabert. À 50 ans, dimanche dernier, le cycliste tarnais retraité depuis 2002 maintenant, est une nouvelle fois devenu champion du monde. Le mec est incroyable. Ouais. Mais de l'Ironman. Voilà, cette fois-ci dans la catégorie des 50-54 ans. Alors donc, 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied. Le tout bouclé en 4h34 et 55 secondes. L'ex-cycliste a posté une photo de lui sur Twitter se disant fier et heureux. Il le peut.
Serge Blanco, une petite compétition comme ça pour vous, Ironman, non?
Non.
Serge fait l'effort.
N'y pensez plus.
D'accord, c'est dommage, j'en aimerais bien vous voir.
C'est le triathlon, hein, Serge, j'en ai plus ni moins.
Oui,
hein.
Mais bien sûr.
Pour finir ton conseil culturel, Joy.
Eh bien, bah, faites comme Serge, alors profitez des derniers jours ensoleillés, de l'ambiance estivale, grâce à un sublime court-métrage d'animation visible sur Arte TV, intitulé Riviera, qui est réalisé par Jonas Schlössing. J'espère que je le prononce bien. Voilà, le pitch est simple. Hein. Malgré la chaleur, Monsieur Osganzi et Madame Carmen prennent le soleil au bord de la piscine. Monsieur Henriette, lui, observe l'extérieur depuis son salon. En surface, tout est calme. Et là, dans un sud-est de la France, magnifiquement crayonné, vraiment, tout est en noir et blanc. Et alors c'est bruité comme si on y était. On choisit sa place au soleil, au bord de l'eau ou depuis un balcon d'appartement. On rêve au passé, on rêve au présent. Voilà, il y a un vent frais, un vent d'été, on a envie d'y rester. C'est vraiment, vraiment sublime, poétique et rafraîchissant. Tout ce dont on peut avoir envie, enfin, en tout cas moi.
Ça vous convient mieux, ça
moment.
Oui. Serge Blanco, hein, ça vous va, ça vous va le balcon?
Là, je suis le premier. Là.
Ouais, là, t'as le premier. Ça s'appelle donc Riviera, c'est un court-métrage de Jonas Schlössing, c'est sur arte.tv. Merci beaucoup, Joy, à la semaine prochaine.
Mais de rien, avec plaisir.
Salut. Bye. Merci à toute l'équipe de L'Œil du Tigre, à Marco Mutel aux manettes ce soir, évidemment. Merci Marco, assisté à la technique de Benjamin Orgeret, merci à lui. Merci à toute l'équipe de L'Œil du Tigre qui prépare cette émission avec moi, Arnaud Jamin, Loïc Saulnier et Thierry Dupin pour les scoles. On se retrouve la semaine prochaine, plus vite, plus haut, plus fort, filmer le sport. C'est le titre du cycle que propose le centre Georges Pompidou à Paris cet automne. Et avec deux cinéastes, Delphine Glaise et Pierre Morat, on va vous raconter comment le sport est entré dans le temple de l'art moderne. D'ici là, passez une excellente soirée, une excellente semaine. On vous attend dimanche prochain dans L'Œil du Tigre à 18h sur Inter. Salut et fraternité.